Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine.
Cette semaine, dans l'envie de savoir, nous partons à la découverte d'une pièce de Théophile de Viau, Les amours tragiques de Pyrame et Thisbé. Écrite en 1621, cette pièce a marqué un renouveau du genre théâtral et fait aujourd'hui figure de modèle du théâtre baroque. Alors nous allons tenter d'expliquer pourquoi, en explorant un peu plus en détail cette pièce et son auteur, Théophile de Viau, dont nous fêtons cette année les 400 ans de la mort. C'est une date inscrite au calendrier France Mémoire. Alors pour parler de tout ça, nous recevons aujourd'hui Charles Dimelio, acteur, metteur en scène et fondateur de la compagnie Ogma, qui joue actuellement cette pièce. Bonjour à vous.
Bonjour Marie.
Alors, Pyrame et Thisbé, ce n'est pas une histoire inventée par Théophile de Viau, c'est un mythe qui inspirait déjà Ovide, le poète latin, et cette histoire aurait même inspiré un certain Shakespeare pour une de ses pièces les plus connues.
Peut-être, oui, vraisemblablement pour Roméo et Juliette.
Pour Roméo et Juliette. Peut-être qu'on peut rappeler l'histoire très brièvement de Pyrame et Thisbé.
Pyrame et Thisbé, ce sont deux amants, deux amoureux, Pyrame d'un côté et Thisbé de l'autre, qui s'aiment passionnément, mais sans s'être vraisemblablement jamais vus, puisqu'ils sont séparés par un mur. Leurs deux jardins sont séparés par un mur et les deux familles sont brouillées à mort. On ne sait pas pourquoi, Théophile nous parle d'une antique haine entre les deux familles, exactement comme dans le prologue de Roméo et Juliette où ces deux familles séparées par une haine qui s'oppose. Et ils ont réussi néanmoins à trouver une petite fente dans le mur qui les sépare.
Une fissure
où tous les soirs ils se retrouvent pour se dire leur amour et faire des grands projets d'avenir, évidemment. La grande invention de Théophile par rapport au mythe d'Ovide, c'est qu'il rajoute un roi un peu tyrannique qui est lui-même amoureux de Thisbé et qui cherche à la forcer à faire ce dont il a le désir de faire avec Thisbé, qui va être une péripétie qui va permettre la fuite des amants. Les amants s'échappent de chez eux pour se retrouver et normalement s'unir, mais c'est une tragédie.
Alors, vous l'avez dit, le récit a inspiré Théophile de Viau. Aidez-nous à le situer un petit peu. Il est né en 1590. Quelle place occupe-t-il dans le paysage littéraire de son époque? Je crois qu'il est surtout connu comme poète, avant tout.
Théophile est d'abord un poète aussi de cour, c'est-à-dire qu'il va écrire de la poésie de circonstance pour les différents favoris de Louis XIII. C'est surtout une superstar dans les années 1615-20. Et ça lui donne un statut véritablement quasi unique dans le paysage littéraire de son temps. C'est en même temps une figure assez controversée, puisque lui-même prône pour une liberté de pensée. Ce sont les fameux libertins du XVIIe siècle qui n'ont rien à voir avec les libertins du XVIIIe.
Libertins, à l'époque, ce sont vraiment les personnes qui revendiquent la liberté des sens.
Tout à fait. Une liberté de pensée qui s'affranchit déjà de la religion, en tout cas dans le cas de Théophile, qui se rapproche de l'athéisme, et dans le cas de Théophile, une recherche de la satisfaction des sens, une recherche épicurienne et lucrétienne, où il va se rapprocher de la nature pour l'épanouissement des sens de l'individu. Donc c'est évidemment extrêmement, non seulement novateur, mais dangereux comme courant de pensée au XVIIe. Il a des appuis très forts qui lui donnent une certaine liberté, jusqu'au jour où, c'est toujours le problème des pères jésuites, un père jésuite décide de se venger de l'ensemble des libertés sur Théophile, c'est un peu le Oscar Wilde du XVIIe siècle. Il se fait emprisonner, il vit des années épouvantables, évidemment, en prison. Il en ressort brisé, détruit, mais il a beaucoup publié aussi en prison, donc ça contribue aussi à un statut de star, si je puis dire, qui se perpétue, puisque ses écrits en prison s'arrachent également chez les libraires.
Il a été condamné à mort, je crois, mais sa peine a été
commuée. D'abord, alors, il a été condamné à mort, brûlé en effigie, et sa peine a été commuée en exil, puis en prison.
Alors, pour revenir à la pièce Pyrame et Thisbé, cette pièce est un modèle du genre dans le théâtre baroque. Peut-être, qu'est-ce qui définit le théâtre baroque et surtout, qu'est-ce qui, dans Pyrame et Thisbé, en fait un exemple si représentatif?
Le théâtre baroque, ça va être un théâtre qu'on va distinguer de ce qu'on appelle ensuite le théâtre classique.
Qui vient donc après.
Qui vient donc juste ensuite. On a tendance à dire que c'est le Cid de Corneille en 37 qui décide de ce grand changement, qui coïncide aussi, bien entendu, avec la création de l'Académie française et d'un théâtre qui devient beaucoup plus régulier, avec une structure en cinq actes définie par une unité de temps, une unité de lieu et une unité d'action. Théophile, c'est pas du tout son cas. Théophile lui-même prend aussi des libertés presque avec d'autres dramaturges de son temps. Ce qui va définir la dramaturgie baroque, ça va être déjà la simultanéité des actions. C'est-à-dire qu'on a plusieurs lieux de l'action qui sont représentés sur une scène unique, mais qui va représenter 4, 5, voire parfois plus de lieux simultanément. Mm-hmm. Un peu réminiscent des places où se jouaient les mystères il y a peu de temps avant Théophile, mais surtout qui crée une illusion théâtrale qui est très différente de celle qui viendra ensuite, où on n'a pas du tout une recherche de réalisme qui va progressivement s'installer jusqu'au XVIIIe siècle. On va même inventer le fameux quatrième mur qui séparera définitivement la scène de la salle. Donc on est dans un théâtre qu'on peut appeler polytopique, si on aime bien les mots avec des Y, où il y a plusieurs lieux en même temps, où le spectateur est donc baladé d'un endroit à un autre. On ne sait pas la durée de l'intrigue, ça peut être sur plusieurs jours, même si on pourrait penser que c'est l'ensemble d'une nuit qui est dépeinte et que traversent les amants jusqu'à l'issue fatale. Donc c'est une des premières grandes différences. Il y a des intrigues secondaires qui ne sont pas totalement imbriquées non plus dans l'intrigue principale, qui va être une des choses que vont essayer d'épurer les classicistes ensuite, pour que l'action soit plus simple à suivre. Et puis, on a des personnages qui ne servent strictement à rien, comme on en verra beaucoup moins dans le théâtre dit classique. Des confidents, mais qui n'apparaissent que le temps d'une scène. Le père de Pyram apparaît dans une scène avec son confident à lui, qui ne nous apporte pas fondamentalement d'informations supplémentaires par rapport, mais ça permet simplement de créer de la poésie, des moments magnifiques, de dialogue, et bien entendu des oppositions à Pyramé Thisbé.
Et puis il y a une vision de l'amour aussi assez particulière dans cette pièce, une vision assez mortifère, où l'amour est dangereux, il aveugle, les amants sont eux-mêmes prisonniers de leur passion.
Un peu comme dans Roméo et Juliette, finalement, où l'amour d'abord détruit Roméo avant qu'il ne rencontre Juliette, quand il est amoureux de Rosalinde, jusqu'au moment où il rencontre Juliette, et ça va être une autre destruction qui va s'entamer. Mais c'est davantage, je pense, les restrictions faites à l'amour qui sont destructrices. C'est-à-dire que ceux qui vont mettre en garde contre l'amour, ce sont les figures d'opposition à Pyram et Thisbé, la gouvernante de Thisbé, Bertiane, les parents de Pyram et de Thisbé, qui vont vraiment mettre en garde les deux jeunes amants contre l'amour, alors que eux se jettent évidemment à corps perdu dans leur amour, qui est un des propres de la jeunesse. Donc c'est davantage une opposition entre la jeunesse, la vieillesse, la liberté et les carcans que présente Théophile, puisque c'est grâce à leur amour qu'ils vont réussir à s'échapper et vivre, même si ça ne dure pas très longtemps.
Non, c'est très court. Il y a aussi dans cette pièce un certain goût du spectaculaire, avec des morts assez violentes. Et d'ailleurs, il décrit la mort des amants. Est-ce que c'est courant de le faire à l'époque ?
La scène baroque est effectivement beaucoup plus fourmillante qu'elle ne le sera ensuite, où on n'hésite pas à représenter des duels, des suicides, des morts sur scène. On a tendance à dire que dans la scène classique, ensuite, il n'y a pas de mort véritablement sur scène. Mm-hmm. On peut penser néanmoins que, par exemple, la Phèdre de Racine meurt sur scène à la fin, quant à l'innocent Hippolyte, puisqu'on n'a pas le temps de sortir une actrice de scène entre le moment où elle finit de parler et où on dit qu'elle expire. Donc, ça se passe vraisemblablement sur la scène. Mais effectivement, la scène baroque n'hésite pas du tout, même à produire des effets spectaculaires et sanguinolents. Mm-hmm. Si on lit la liste des accessoires de l'Hôtel de Bourgogne, qui est un des théâtres où a été joué Pyram et Thisbé dans les années 1630, on a, par exemple, la nécessité, bien entendu, d'avoir un poignard, mais surtout du sang. Donc, c'est qu'il y avait une effusion formidable de sang au moment du double suicide des amants.
Alors, la pièce est décrite, Les Amours Tragiques de Pyram et Thisbé, en 1621. Elle est jouée pour la première fois seulement 2 ans plus tard.
C'est un des grands mystères de l'histoire littéraire. On a tendance à dire qu'on ne sait pas trop forcément quand elle est jouée. Il y a plusieurs dates avant de venir. J'ai essayé de vérifier aussi pour ne pas dire de bêtises. Il y a des gens qui disent, par exemple, qu'elle a été jouée en 25 devant la cour, qui serait une des premières représentations de tragédie devant la cour, dans un cadre de théâtre tel qu'on l'entend pour le XVIIe siècle. Mais d'autres disent 1621, déjà pour la cour, mais qu'on n'a pas gardé les traces. Enfin, donc c'est très très débattu. Donc en fait, on ne sait pas du tout.
Et est-ce qu'on a une idée de la réception de cette pièce quand elle a commencé à être jouée ?
Ça a été vraisemblablement très très bien reçu, puisque le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne l'a gardé au répertoire au moins jusqu'en 1635. Mm-hmm. On a la chance d'avoir un catalogue des décors de l'Hôtel de Bourgogne, dont le catalogage commence dans les années 1634, si je ne dis pas de bêtises, et il y a le décor de Pyram et Thisbé. Donc ça veut dire qu'en 1934-1935, plus de 10 ans après la mort, presque 10 ans après la mort de Théophile de Viau, on l'a joué encore, ce qui est toujours très très bon signe dans une effervescence théâtrale sans cesse en quête de nouveautés. En général, une œuvre effaçait la suivante, il y avait toujours quelque chose de nouveau qui arrivait et on oubliait les succès précédents, sauf s'il fallait remédier à un four, bien sûr.
Alors la mise en scène, vous avez mis, Charles Dimelio, mise en scène cette année la pièce de Théophile Deviau. Votre compagnie, la compagnie Ogma, s'intéresse, je crois, uniquement à des pièces qui ont été écrites entre le 15e et le 17e siècle, des pièces baroques. Pourquoi avoir choisi de mettre en scène cette pièce qui n'est pas la plus connue du théâtre baroque ?
Parce qu'on aime bien justement aussi retrouver des pièces pas forcément connues et jouées régulièrement sur la scène contemporaine. On va avoir évidemment des tubes comme Bérénice de Racine au répertoire, mais on aime bien aussi orienter le regard de nos spectateurs vers quelque chose de différent qui changerait notre vision justement sur le XVIIe siècle, qu'on a tendance à voir vraiment sous le prisme du règne de Louis XIV et surtout en général la deuxième moitié du règne de Louis XIV. Mmh. Donc pour renouveler un petit peu ce regard-là, on va vraiment se mettre en quête d'inconnus. On a monté Apollon et Daphné de Charles d'Assoucy que personne ne connaît et qui n'a jamais été joué sans doute avant nous. On s'est intéressé aux Mazarinades aussi, on en a fait tout un spectacle. Pyram, dans le milieu baroque effervescent évidemment d'aujourd'hui, est quand même une pièce assez connue de par la position de Théophile dans la littérature du XVIIe et du règne de Louis XIII, mais elle est très peu jouée parce que effectivement elle sort complètement des canons habituels pour nous, du théâtre du XVIIe siècle. Moi, c'est une pièce dont je suis tombé fou amoureux. J'ai eu la chance de la voir vers 2012, quand Benjamin Lazare l'avait montée à l'Athénée. Et je suis tombé vraiment fou amoureux de la pièce. Je suis allé voir le spectacle même 3 fois, tellement j'étais à la fois ému par la pièce et par la mise en scène. Roméo et Juliette est par ailleurs mon autre pièce préférée que je rêve de monter un jour. Donc quand on a commencé à réfléchir aux anniversaires, Théophile Deviau, qui arrivait cette année-ci, évidemment, Pyram est devenu une évidence.
Vous, la particularité de votre mise en scène, c'est que vous jouez donc en français restitué. Vous cherchez à restituer la prononciation telle qu'on l'entendait à l'époque. Concrètement, comment on travaille cette reconstitution ?
D'abord, on s'immerge dans les sources, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de documents du XVIIe siècle qui nous permettent de retrouver la prononciation utilisée sur scène, mais aussi tout plein de choses liées aux pratiques théâtrales. Il faut distinguer justement la prononciation sur scène et celle de la ville. C'est pour ça que je ne suis pas toujours très fan du terme de prononciation restituée qui est très utilisé en musique, parce que d'une, elle donne l'impression d'une sorte de reconstitution muséale et archéologique, donc qui ne serait pas vivante, mais aussi parce qu'il ne s'agit pas du tout d'une langue véritable, réaliste et naturelle. C'était une langue volontairement artificielle qu'on employait dans les cas où, justement, la parole devait être augmentée, amplifiée et devait se distinguer de la vie de tous les jours. Donc, quand un curé faisait un sermon, qu'un avocat faisait un plaidoyer et quand un comédien ou une actrice déclamait sur scène, c'est ce qu'on appelait le style soutenu, où la parole était soutenue, élevée, de façon amplifiée, et c'est lié à la pratique de la déclamation. Donc ce style soutenu, en fait, fait partie intégrante de la déclamation théâtrale du XVIIe.
Et alors, je crois que vous avez aussi monté, donc, dans le passé, des pièces de Molière. La prononciation est-elle la même que pour Théophile Deviau ? Les deux auteurs étaient séparés de quelques années, Molière est venu après. Est-ce que vous les jouez avec le même français ?
Plus ou moins. Ouais. On s'amuse à quelques coquetteries, puisque la phonétique historique, donc, qui est distincte de la phonétique du style soutenu, mais qui a forcément une influence sur celle-ci, a évolué légèrement, justement, à partir des années 20 jusque dans les années 50-60 du XVIIe siècle. Donc, on s'amuse à quelques coquetteries dans Théophile qu'on ne va pas faire quand on joue Molière, mais les pratiques de déclamation sont les mêmes tout le long du XVIIe siècle. C'est assez fascinant de voir cette tradition, véritablement, qui s'installe avant de disparaître avec le XVIIe, finalement. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très temporisé sur les 100 ans que dure le XVIIe. On va le jouer de la même manière. C'est vrai que Molière, on a tendance à imaginer qu'il se défait de tous ces fameux carcans de la déclamation, parce qu'on disait que son jeu était naturel, et nos yeux du XXe siècle d'abord, puis du XXIe, on traduit ce naturel, qui est un terme du XVIIe, dans le sens de réaliste. Et donc, notamment dans les années 1968, où on essaye de réinventer le théâtre et se détacher des pratiques du XIXe et des années 50, on s'est dit, mais Molière, du coup, a inventé le théâtre des années 1968, un jeu très réaliste, qui se défait de toute la poussière, de la déclamation, etc. Le film d'Ariane Mnouchkine sur la vie de Molière, qui est pourtant un de mes films préférés au monde, et que je revois au moins une fois tous les 2 ans, les 4 heures, a tendance aussi à colporter cette idée-là. Or, une des choses qui va distinguer la déclamation de Molière de celle de ses contemporains, et donc de celle de Théophile, ça va être davantage la manière d'écrire de Molière, La manière de ponctuer de Molière aussi, la ponctuation au XVIIe théâtrale, est extrêmement rythmique et pas grammaticale comme elle le deviendra au XVIIIe. Et si on s'intéresse à la ponctuation originale de Molière, on voit qu'il découpe ses vers de façon très étrange de prime abord, mais qui, une fois qu'on les joue, en fait, donne un débit de parole, de prosodie et de déclamation beaucoup plus proche, effectivement, d'un style parlé que ne peut être la ponctuation, par exemple, de Racine, qui est extrêmement dramatique, au sens théâtral du terme.
Et donc, pour revenir aux pièces que vous jouez, que vous interprétez donc en vieux français, eh ben, je vous propose de nous faire écouter un extrait des Amours tragiques de Pyram et Thisbé que vous mettez actuellement en scène. Avant de vous entendre, peut-être, est-ce que vous pourriez contextualiser un petit peu la scène que vous allez nous lire ?
Donc c'est le tout début, c'est la première scène de l'acte 5, quand Pyram, ayant réussi à s'échapper de chez ses parents, se retrouve au lieu de rendez-vous avec Thisbé. Il arrive seul, Thisbé est arrivé en avance, elle a disparu, mais Pyram ne le sait pas, il pense qu'il est le premier arrivé, et il fait une déclaration d'amour à la nuit qui lui permet de retrouver Thisbé.
Enfin, je suis sorti. Leur prudence et fortune n'a plus à gouverner ni moi, ni ma fortune. Mon amour ne suit plus que le flambeau d'amour. Dans mon aveuglement, je trouve assez de jours. Belle nuit, qui me tend tes ombrageuses toiles, ah vraiment, le soleil vaut moins que tes étoiles. Douce et paisible nuit, tu me vaux désormais mieux que le plus beau jour ne me valut jamais. Je vois que tous mes sens vont combler de joie, sans qu'ici nul des dieux ni des mortels me voie.
Donc en fait, on prononce vraiment toutes les lettres
On prononce plus de lettres, effectivement, qu'en français moderne, beaucoup plus de lettres qu'en français du XVIIe siècle, où c'est une langue à la ville, où on ne va prononcer aucune des finales des mots. Par exemple, on dirait « je suis le fils de mon père » et non pas le fils de mon père. Pour une raison assez évidente, de mon point de vue, c'est que la plupart des gens ne savent ni lire ni écrire, donc on ne sait pas forcément quelle lettre il y a à la fin des mots, qui sont des réminiscences du latin, et ça fait partie justement de cette artificialisation de la langue que de les faire entendre. Mais on ne les fait pas entendre systématiquement non plus, sinon ça crée le terme qu'ils aiment bien utiliser, c'est de la cacophonie. Donc ça va être vraiment la fin des vers, où on va prononcer la consonne finale, ou la voyelle, si c'était un E caduc pour les rimes dites féminines. Ou alors quand il y a un arrêt de voix, un signe de ponctuation. Donc la ponctuation originale pour nous est vraiment vitale pour ça, puisqu'elle nous indique quand prononcer ces consonnes finales. Et elles viennent en fait avertir le public qu'on arrive à la fin d'une période rhétorique. À l'unité d'un vers, à l'unité d'un demi-vers, même parfois quand la ponctuation nous le dit. Et ça vient en fait rythmer cette écoute du public. Ça rejoint peut-être un peu la question que vous commenciez à poser. Comment est-ce qu'on comprend ce français étrange aujourd'hui ? Eh bien, il ne faut pas oublier qu'il était étrange au XVIIe. Même si on allait au théâtre ou au sermon, et qu'on avait l'habitude d'entendre cette prononciation-là, elle n'était néanmoins pas celle à laquelle on avait l'habitude quand on était à la maison. Donc, il y avait un sentiment d'étrangeté. Le théâtre était couru vraiment par tout le peuple à Paris, on le sait. C'est pour ça qu'il y a des portiers à l'entrée des théâtres qui essayent de protéger les gens qui viendraient avec des objets un peu trop valeureux et qui se les feraient chiper. C'est aussi pour ça qu'il y a une grande distinction sociale néanmoins dans les théâtres. Mais ça nous montre bien que tous les niveaux de la société se pressaient au théâtre et donc avaient accès à cette langue et aussi à ce style poétique qui n'est pas forcément compréhensible de par les images qui sont créées, de par la syntaxe aussi qui est très différente de la syntaxe quotidienne. Il ne faut pas croire que les gens parlaient tous en alexandrin quand ils allaient faire leur marché. Mais néanmoins, même si on ne comprend pas forcément tout, de même qu'aujourd'hui, ça crée un impact immense puisque tout le travail rhétorique qu'ont fait d'abord l'auteur puis les actrices et acteurs dans leur travail de répétition est là pour transmettre les émotions et suppléer à la compréhension du texte quand elle fait défaut.
Et je précise que vous jouez
Pyram
dans cette pièce. D'ailleurs, cette pièce, vous la jouez toujours à la tombée de la nuit ?
À
la bougie ?
On essaye de la jouer à la tombée de la nuit à la bougie pour vraiment que la nuit se couche en même temps qu'elle ne se couche dans l'action. Au tout début de l'acte 2, Pyram dit à son meilleur ami « La nuit est en train de tomber, ça veut dire que Thisbé arrive. » Donc c'est vraiment, la nuit est un personnage à part entière de la pièce. C'est à la faveur de la nuit que les amants sont capables de se retrouver. Et ils espèrent s'unir à la faveur de la nuit. Ce n'est que grâce à la nuit qu'ils peuvent s'échapper de chez eux et se retrouver au tombeau de Ninus, qui est leur lieu de rendez-vous.
Et je précise que Elsa Dupuis joue Thisbé. Les prochaines représentations de Pyram et Thisbé de la compagnie Ogma auront lieu le 22 août prochain à Clairac, qui est la ville de naissance.
Qui est la ville natale de Théophile, donc c'est vraiment très émouvant pour nous d'y aller.
De Théophile de Diot. Et puis le samedi 29 août prochain à Chantilly, où là aussi je crois qu'il y a un lien
avec
l'histoire personnelle de Théophile.
C'est là où
il
se réfugie à sa sortie de prison, au pavillon de Sylvie, donc devant lequel on aura la chance de jouer, qui est le seul endroit véritablement encore du 17e à Chantilly. Et donc on va jouer dans l'endroit, pas où Théophile est mort, puisqu'il ne reste pas à Chantilly pour ses derniers jours, mais en tout cas, la comtesse de Montmorency le recueille à sa sortie de prison, et ça sera une sorte de soupape de bonheur au milieu de son désarroi.
Il reste encore des places, les auditeurs peuvent réserver.
Alors je crois que les réservations n'ont même pas ouvert pour le château de Chantilly.
Très bien, on mettra le lien sur notre page émission. Et je précise également qu'il y a une notice à lire sur le site de France Mémoire. On mettra également le lien sur la page de notre émission. Un grand merci, Charles Dimelio.
Oui, merci.
Fondateur de la compagnie Ogma, compagnie qui joue à la fois donc, dans des lieux institutionnels. Vous avez joué à l'Institut de France et également dans des zones rurales un petit peu partout en France. C'est important de le souligner.
Absolument, on essaye de faire vivre le théâtre partout.
Merci beaucoup.
Les podcasts de l'Institut de France.